Bonjour et bienvenue dans Par Intermittence, le podcast de Télésanté, le service de prévention et santé au travail qui s'occupe notamment des intermittents et intermittentes du spectacle. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et je suis infirmier en santé au travail. Je vous propose d'aborder la santé et la prévention sous un nouvel angle, en écoutant le témoignage d'intermittents et d'intermittentes du spectacle qui nous parlent de leur parcours, leur métier et de son impact sur leur santé. Comment font-ils pour faire face aux risques professionnels et continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles? Leur passion pour leur métier permet-elle d'absorber tous les aléas? C'est ce que nous allons tenter de mettre en lumière. Installez-vous confortablement pour le nouvel épisode de Par Intermittence et faites connaissance avec Kostia, danseur. Merci d'avoir accepté de participer au quatrième épisode de Par Intermittence. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours professionnel, comment t'en es arrivé à faire le beau métier de danseur?
Disons que j'ai commencé plutôt par le sport. J'ai commencé par la natation, j'étais dans un club de natation une bonne partie, maternelle, primaire, j'ai fait les bébés nageurs. Puis j'ai fait de l'escrime, au collège j'étais très associé à mon club de volley, l'AS Volley. Et à côté de ça, à 10 ans, j'ai commencé le karaté. J'en ai fait 10 ans et ça m'a clairement structuré autant physiquement avec des entraînements intensifs. Donc voilà, c'était toujours très important cet équilibre pour moi entre l'école, le côté un peu plus cérébral et notamment parce que j'avais un père qui vient du théâtre, donc pour qui les mots, le verbe et la langue française sont très importants. Donc on ne pouvait pas passer à côté de ça et l'école était importante. Mais à côté, moi j'avais vraiment besoin de courir, de suer un bon coup et c'était vraiment cet équilibre-là qui a été important une grande partie de ma jeunesse. Et puis après mon bac, je suis rentré en prépa, j'ai fait Hippocagne-Cagne en études littéraires. Puis je me suis beaucoup intéressé par mes origines espagnoles à l'Amérique du Sud. Et donc j'ai décidé à 21 ans de partir faire un voyage de 8 mois tout seul, dans les Andes notamment, en Équateur, au Pérou, en Bolivie et en Argentine après. Voilà, et en fait c'est ce voyage-là qui a un peu switché pour moi, ce rapport entre cette envie, et j'ai eu envie d'être sportif de haut niveau étant adolescent, mais faisant du karaté, il n'y avait pas de grandes ambitions sportives, aussi bon, parce qu'il n'y avait pas de résultats, mais disons qu'il y avait aussi une forme de frein pour moi, parce que les études prenaient beaucoup de place, parce que j'avais une forme de pression parentale, qui faisait qu'il fallait aussi avoir des diplômes, etc. Et voilà, c'était OK pour moi. Enfin, c'était possible, mais j'avais besoin de cet équilibre. Ce voyage-là m'a fait dire qu'à un moment, il fallait aussi que j'aille vers ce que j'avais envie de faire. Et donc, en rentrant, j'ai décidé de faire beaucoup de pratiques artistiques.
Comment on se prépare à passer autant de temps à travailler? Est-ce que tu as une routine particulière en fonction des projets ou tu as de base une routine quotidienne très rigoureuse?
Les deux. Moi j'ai besoin, et d'autant plus avec, je pense, les années qui passent, et puis en effet le fait de que d'un coup ça devienne un métier, c'est-à-dire qu'on parle souvent de métier passion, et les premières années sont beaucoup souvent de plaisir, le fait de moi d'avoir mis aussi beaucoup d'énergie, et que d'un coup il y ait cette pratique se fasse de plus en plus récurrente et régulière dans ma vie, ça a été beaucoup de joie. Maintenant avec le temps, la structuration d'une vie peut-être plus adulte a fait qu'il a fallu aussi que je structure mon quotidien. Du coup, il y a des routines, je dirais, quotidiennes. Donc oui, j'ai des pratiques de yoga, par exemple, quasi quotidiennes le matin. J'aime beaucoup faire de la méditation, personnellement. En tout cas, c'est quelque chose qui me calme beaucoup. Des fois, on sort de résident, justement. Moi, je sors parfois très touché émotionnellement, avec des fois du stress. Donc voilà, besoin des fois de calmer le système nerveux, et j'en parle d'ailleurs beaucoup avec mon ostéo, qui est aussi une personne importante dans ma vie, et voilà, je vais la voir quand même régulièrement, je dirais tous les 2-3 mois.
Pourquoi tu vois un ostéo tous les 2-3 mois? C'est du préventif ou c'est parce que t'as mal partout et que t'as vraiment besoin d'être remis d'aplomb un petit peu?
Heureusement pour moi, je la vois plutôt en prévention. J'essaye de la voir le plus possible en prévention, donc j'essaye d'anticiper. C'est aussi disons que on sait que par exemple, je peux pas travailler le lendemain. Enfin, j'essaye de pas travailler le lendemain de ma séance avec l'ostéo. Donc il y a une forme d'organisation aussi par rapport à ces rendez-vous. Donc non, j'essaye de la voir surtout pour moi, d'essayer de venir aussi avec des intentions parce que des fois elle peut pas tout voir, tout regarder, et on discute parce qu'il y a des fois des choses que moi je vois pas non plus, notamment en termes des fois émotionnels ou des questions de... Ouais, enfin, il y a des formes de déni, je pense, un peu physique des fois, une porte de la blessure. Mais ça m'arrive aussi de la voir par exemple après une forte charge de travail aussi pour justement décompresser décompresser, regarder s'il y a des douleurs particulières ou des... J'ai eu des chocs, donc calmer un peu les bleus, détendre, voilà.
Est-ce qu'une journée type, ça existe en tant que danseur?
Mais je sais que cette question, je me la suis rarement posée. Donc ça montre bien qu'il n'y en a pas forcément. Et en effet, l'une des semaines types pour moi de mon métier, c'est ces semaines de résidence qui sont des semaines très intenses où on se retrouve sur un projet création. Donc des fois, alors des fois c'est vraiment des semaines de création. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment une des semaines que souvent je préfère dans mon calendrier. Mais en tout cas, voilà, c'est des longues journées où on travaille souvent assez intensément avec des profils très différents d'artistes, dans le sens où on va avoir les techniciens lumière-son, les scénographes, les costumières, la personne souvent qui chorégraphie ou met en scène le projet, les artistes au plateau, danseurs, comédiens, musiciens. Donc il y a cette émulation-là et j'aime beaucoup ces endroits où moi je continue à apprendre, à chercher, on se rencontre et l'audition, enfin s'il y a eu des auditions, elles sont finies et on sait qu'on est choisi, qu'on est là, qu'on va faire le projet. Et c'est vraiment des endroits où on cherche. On vient souvent se mettre aussi en danger dans le sens où les gens nous ont choisis pour ce qu'on fait et en même temps ils viennent souvent nous demander de nous mettre au travail, à essayer des choses différentes. Voilà, des fois on s'entraîne, alors des fois c'est très technique, on peut aller chercher des figures qu'on connaît pas encore, qu'on a du mal à passer, à apprendre des techniques, s'apprendre entre nous des techniques différentes. Et puis des fois, par exemple, moi je suis allé vers le théâtre avec, des fois on part des rencontres de compagnie, des projets de résidence où on m'a proposé de prendre du texte, d'essayer de faire un peu de percussion, d'accompagner un chant. Donc voilà, il y a toute cette émulation-là qui peut être très belle. Et en tout cas, moi je travaille beaucoup dans cette hybridité-là aussi des arts. Sinon, il y a des journées aussi de repos et elles sont importantes. Des plages où on a besoin de se reposer et de s'entraîner, puisqu'en fait, un peu comme les sportifs de haut niveau, en fait, on passe notre temps à préparer notre corps pour les performances et les shows qu'on va faire. Et donc, on peut, comme je disais, faire des routines de yoga. Moi, je continue à faire souvent de l'escalade ou de la natation pour le plaisir, mais aussi pour varier les plaisirs. Et puis, prendre des cours, en effet, prendre des cours régulièrement, des stages. Moi je suis souvent attiré par aussi l'univers artistique de certains chorégraphes ou danseurs-danseuses et du coup je viens aussi continuer à rencontrer ces personnes.
Comment se déroule une audition lorsque tu dois passer des auditions? Est-ce que tu peux nous illustrer un peu par des exemples? Est-ce que tu sais en amont ce qu'on va te demander? Est-ce que tu dois prendre des cours en amont de l'audition parce qu'il faut connaître absolument ce type de danse? Est-ce que tu peux tout danser? Comment t'abordes les auditions?
Je pense que ça, c'est une vraie question dans le milieu. Moi, je vais essayer de répondre à mon endroit parce que déjà, je n'ai pas passé tant d'auditions que ça. Donc, j'ai passé souvent des auditions où on était maximum une vingtaine, ce qui est en fait très peu pour une audition. Bon, j'ai fait des auditions pour des créations de spectacles, mais aussi pour des reprises de rôles, chose qui se fait beaucoup. Et donc, il y a une blessure, on a besoin d'une nouvelle personne, on fait une reprise de rôle. Concernant la préparation, ça m'est jamais arrivé qu'on me dise en amont ce qu'il allait être demandé. Moi, je me souviens d'une audition où il y avait un peu de travail chorégraphique. On va te demander d'être sur un rythme, il y a une musique, il y a une choré qu'on apprend quelques fois et puis il faut la refaire. Donc souvent, c'est aussi pour cocher des cases techniques. Puis moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est aussi souvent qu'on nous laisse un peu libre et qu'on puisse développer un peu notre recherche, en tout cas qui nous laisse souvent des moments de danse libre, ou alors de travailler par exemple avec une ou deux danseuses déjà de la compagnie, donc de voir un peu les relations, les feelings, sentir comment ça se passe entre nous, quoi.
Est-ce que tu connais tes limites par rapport à la charge mentale, à ce que ton corps peut absorber comme effort? Est-ce que tu arrives à conscientiser ton rapport au corps?
De mieux en mieux, dans le sens où, en tout cas, encore une fois, je parle de moi. Je suis une personne qui aime prendre des risques. Je le dis dans le bon sens du terme, dans le sens où ça peut être vraiment un endroit de plaisir pour moi de chercher ces limites dont tu parles. Et j'aime ça, pour moi, c'est un endroit de la recherche et du plaisir. Et le cirque, la recherche en cirque m'a fait partie, cet endroit de la peur qui est clairement fait partie de la pratique circassienne, de la tête en bas, du salto, de la réception. Et moi, je fais beaucoup de danse contact improvisation, qui fait partie de la danse contemporaine aujourd'hui. On l'utilise pas mal aujourd'hui en partnering. Il y a beaucoup de chorégraphes qui la réutilisent. Et c'est en fait une étude de la chute. C'est une étude où vraiment on tombe beaucoup, on se porte, on fait beaucoup de portées. Alors, peut-être moins acrobatiques que celles et ceux qu'on peut faire en cirque. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de la chute, de tomber, de glisser sur l'autre, de se sauter dessus, littéralement. Et donc, ouais, j'aime ces pratiques de risque. Avec le temps, ce que j'ai aimé, je crois, et ce que j'aime dans ce rapport au risque, c'est comment on le gère. Et je pense que c'est aussi des choses dont parlent pas mal les sportives, tout ça, de la gestion de la peur, du risque, de le prendre, mais en sachant lequel on le prend et comment on le fait. Et est-ce que notre corps, en effet, est prêt à le prendre aussi. Et donc, je pense qu'il y a un rapport, moi, aujourd'hui, et notamment avec la danse contact improvisation, j'ai beaucoup abordé les pratiques somatiques. Je crois la première est la technique Alexander. Aujourd'hui, il y a le Rolfing, le Body Mind Centering, le BMC. Et du coup, toutes ces pratiques, je les fais pas toutes et avec des régularités différentes. Mais elles me donnent vraiment cette conscience de en effet, notamment des ressentis, des sensations, des traumas, des vécus, des endroits de tension. Et en effet, prendre, je crois, soin de son corps, c'est aussi prendre conscience de son corps.
Comme beaucoup de sportifs qui prennent leur retraite assez jeune, est-ce que toi, tu penses à l'avenir ? Est-ce que tu sais que tu fais quand même une discipline qui coûte beaucoup à ton corps ? Est-ce que tu arrives à questionner ton avenir dans ton métier, dans ton domaine ?
C'est assez récent pour moi comme question chez moi. Ça fait 5 ans maintenant, enfin 4 ans que je suis intermittent, 5 ans que je danse vraiment intensément. Et donc en effet, au début, la question se posait pas trop. Aujourd'hui, des fois, ça m'arrive de me demander jusqu'à quel âge certaines choses je pourrais faire. Mais quand je vois les personnes autour de moi, je me dis que c'est une question où les choses bougent encore une fois et dans le sens où je ferai autrement. Je ferais autrement. Est-ce que je ferais exactement les mêmes choses? Je sais pas. Je crois qu'il y a des figures, je crois qu'il y a des chemins dans mon corps qui sont maintenant tellement actés que je me demande si d'ailleurs mon corps pourrait ne plus les connaître. Après, est-ce que c'est ma mobilité qui va faire qu'à un moment je pourrais plus les faire? Est-ce que j'aurais plus envie de les faire moi? Parce qu'ils seront peut-être en effet trop douloureux ou peut-être parce que je serais lassé. Mais j'ai l'impression que qu'on arrivera à faire autrement et que je trouverai du plaisir autrement. En tout cas, ce que je sens autour de moi, c'est cette envie de continuer à bouger, de prendre du plaisir et de sentir en effet qu'avec cette prise de conscience dont je parlais tout à l'heure, ça peut nous permettre de nous relâcher et de continuer à bouger, à être en mobilité. Et oui, bien sûr qu'à l'inverse, j'ai pas envie de traumatiser mon corps jusqu'à un certain point. Je sais que je lui demande beaucoup. J'essaie aussi de prendre soin pour que ça, tout ça se fasse un peu en douceur. Donc j'apprends encore à ce niveau-là.
Est-ce que la danse est un milieu très compétitif ?
Oui. Disons que si je parle du mot compétition, pour moi qui vient du côté sportif, moi j'ai quitté un peu les arts martiaux parce que je trouvais qu'il y avait cet esprit trop compétitif qui m'allait pas et je suis allé vers le milieu artistique où j'avais l'impression qu'on était davantage dans le partage. Aujourd'hui, mon discours a un peu changé. En tout cas, entre nous, j'ai l'impression qu'on cherche à s'aider, on cherche à avoir envie aussi de vivre de ce métier, de vivre de ce qu'on aime faire. Donc il y a du partage, il y a de l'entraide, il y a de la solidarité. Maintenant, on est beaucoup. Et encore, moi je suis un homme, je sais qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, j'ai aussi du travail parce qu'il y a des endroits où il manque d'hommes. Je pense beaucoup avoir envie de faire ce métier. Et donc voilà, il y a des alternatives. Moi je pense qu'aujourd'hui, la question scolaire qui, moi, est très présente dans ma vie et me plaît. Et en tout cas, j'ai appris à vraiment trouver du sens dans mon métier avec ça. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, sont plus professeurs de danse que vraiment artistes chorégraphiques. Mais on a aussi besoin de ces profs pour enseigner aux enfants, mais encore aussi à nous en tant qu'artistes. Et en même temps, moi, ça me plaît aussi de savoir que c'est attrayant et qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de danser. Et on le voit, ça reste aussi une pratique pour moi qui doit être accessible, mais pour le loisir, pour les gens qui ont envie de bouger. Moi, je suis un grand partisan du fait que le mouvement est un endroit du vivant et que le vivant est nécessaire.
Quelle est pour toi la partie la plus difficile de ton métier ? Est-ce qu'il y a des éléments où tu t'es dit là quand même on m'en demande beaucoup ?
Je pense à deux choses. La première, c'est tu choisis ton métier, mais est-ce que tu choisis les personnes avec qui tu le fais ? Donc oui, je pense que l'une des premières surprises qui a été la mienne, et je pense dans le milieu du travail en général, ça a été de me dire comment je choisis les personnes avec qui je travaille. Est-ce que je peux le faire? Dans le sens où c'est, a priori, dans une audition, on me choisit, mais... est-ce que moi je peux choisir aussi les personnes avec qui je travaille? Donc ça c'est une forme d'exigence aussi que j'ai envie de me mettre, voire des gens pourraient dire le luxe, ou en tout cas quelque chose qui me donne envie aussi d'être en relation saine dans mon travail. Donc ça c'est important, et il y a la question pour moi un peu de l'éthique, ou des fois, ou la question je dirais même presque politique. J'ai beau faire un personnage, mais je le porte, et à quel point je suis prêt à défendre les projets dans lesquels je suis? Ou est-ce que je choisis, le projet me convient pas, les valeurs véhiculées par les personnes qui travaillent avec moi ne me conviennent pas, est-ce que je continue ce projet-là? Ça pour moi c'est des questions importantes que j'ai envie aujourd'hui, après quelques années d'expérience, de me poser et d'essayer de mettre au cœur de mon travail. Cette question en effet d'éthique, de valeurs et des humains et des humaines qui m'entourent et que je choisis ou pas avec qui travaille. Le deuxième, c'est la question de l'hygiène de vie, avec cette question de une forme de rigueur et de planification un peu de l'emploi du temps. Et puis voilà, l'intermittence, c'est fou, c'est que des fois, on va m'appeler, on va me dire « Oui, dans 10 mois, est-ce que t'es libre pour faire tel ou tel projet ?» Waouh, je sais pas. Est-ce que j'ai envie de faire ce projet-là dans 10 mois? Aujourd'hui, j'ai peut-être envie de le faire. Dans 10 mois, j'en sais rien. Donc, il y a tout ce doigt de planification, d'hygiène de vie. Alors, après, bien sûr, il y a cette question de calendrier où des fois, on nous demande d'être en tournée dans presque. On nous dit, ouais, là, j'ai un projet pour toi dans 2 ans. Le temps qu'on ait les financements, le temps qu'on pose les dossiers de subvention, le temps qu'on monte une prod, etc. Donc, voilà, il y a toute cette question des fois de dire oui. Et puis, en fait, 10 mois après, on sait pas trop en quelle situation on est. Donc, ça, c'est questionnant pour moi, ce rapport au temps. Et puis, il y a l'hygiène au sens plus pragmatique du terme, c'est de se coucher tôt, s'étirer avant de se dormir, structurer ses horaires de repas, des choses que moi j'ai doucement appris à faire.
On peut considérer en t'écoutant que c'est un métier passion, c'est-à-dire qui t'habite, qui t'anime, que tu essaies de nourrir au quotidien. Mais est-ce que tu fais attention à ce que ça ne te déborde pas trop mentalement? Est-ce que tu arrives à avoir un peu de temps pour toi, ou est-ce que c'est quelque chose qui est toujours en sous-marin dans ta tête?
J'ai vécu une période de trop-plein. En fait, je vais parler de Covid. Moi, je rentrais dans le milieu, en fait. J'ai commencé à avoir du travail en 2019. Le Covid arrive, du coup, l'envie de mettre beaucoup d'énergie dedans. J'ai la chance d'avoir un contrat de travail un peu après le Covid. Mais du coup, travailler avec les masques, j'en ai fait beaucoup, et j'ai vraiment structuré ma vie autour de cette recherche d'emploi, enfin, des heures d'intermittence. Et en fait, bon, les choses... en soi, se sont bien faites, dans le sens où j'ai eu du travail et les choses sont bien déroulées. Mais là, l'année dernière, notamment après 3 ans, il y a eu une forme de surmenage. Et clairement, oui, une envie, un besoin de calmer les choses en termes de rythme et de charge mentale. Un stress souvent qui arrivait à un moment où on se demande si 10 mois avant de renouveler ton intermittence, tu te demandes si tu vas avoir tes heures ou pas. Donc là, oui, il y a une forme de précarité de l'emploi pour moi qui est claire et qui est parfois stressante. Et comment j'ai répondu à ça? J'ai un peu commencé à dire non à des projets. Parce qu'en effet, je pense que le réflexe, en tout cas, qui a été le mien, ça a été de commencer à dire oui, en tout cas, à tout ce qu'on me proposait. Et en fait, ça m'a débordé et j'ai pas su gérer ça. Et là, c'est un peu calmé depuis quelques mois. Ça doit faire une petite année où c'est un peu plus stable. Là où, justement, je me suis pas mal structuré avec mon ostéo, qui a été une forme de personne qui m'a suivi aussi. Et puis, en effet, il y a une forme d'entourage. Je parlais de solidarité et d'entraide. J'en ai beaucoup parlé autour de moi et on m'a aidé, en fait.
Est-ce que c'est tabou de parler de la souffrance du corps ou la souffrance mentale dans ton métier? C'est des choses qui sont évoquées à travers l'art, ou est-ce que c'est des choses qui peuvent être évoquées en face à face, de façon plus intime?
Je pense que la blessure physique est discutée, mais dans le sens où presque on la sent tous, on sait tous qu'elle est là. Moi, je suis déjà arrivé en répétition où on se dit là j'ai mal, je me suis blessé la semaine dernière, je me suis blessé la veille. Je pense quand même, quand il y a en tout cas un rapport un peu sain et de confiance dans les relations, on peut dire à une chorégraphe, je vais un peu danser mais j'ai un peu mal là, peut-être sur ce moment-là je vais pas y aller à fond. Enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas autour de moi, et encore une fois je parle que de mon expérience, on discute de la blessure physique et on fait en sorte d'ailleurs qu'elle n'arrive en tout cas le moins possible, ou que ça soit des petites douleurs. On a des courbatures régulièrement. Enfin, pour moi, ça, c'est pas de la blessure, c'est une forme de fatigue et on l'entretient. Parce qu'on parlait de limites et du coup, on touche des fois à des efforts physiques importants. La psychologie et tout ce rapport au stress, notamment de l'intermittence, on en parle. Donc, il y a aussi une question de... c'est là, il faut faire avec. Et il y a une forme de, des fois, un peu de fatalité, ouais. De se dire, c'est ce qu'on a choisi. Et on se pose la question, moi, déjà, je me la pose, de me dire, OK, combien de temps je ferai ça? Est-ce que je serais prêt à être intermittent comme ça longtemps? Et du coup, on pense à ces alternatives un peu de métier autour, de rester dans le milieu de la danse. Moi, j'ai pas du tout envie de faire forcément autre chose, mais est-ce qu'il y a d'autres manières d'être employé? Est-ce qu'il y a des CDI possibles? Ces transitions-là, elles sont complexes, en fait. Elles sont bien plus complexes qu'elles n'y paraissent. Et ouais, elles sont stressantes.
c'est quelque chose qui est évoqué entre artistes, entre danseurs, mais c'est pas quelque chose qui est forcément verbalisé à chaque fois que vous voyez, vous savez que c'est là.
Il y a quelque chose un peu comme ça. Moi, je pense que j'en parle avec des gens qui sont proches de moi, des amis en fait, qui sont pas forcément que des collègues ou des personnes avec qui je travaille. Là où je trouve que c'est des fois plus questionnant et qu'avec qui moi, j'ai plus de mal à discuter, c'est des gens par exemple qui embauchent. Des gens qui ont, eux, investi dans un projet artistique et on arrive un matin en répétition et on s'est blessé et qui ont peu envie quand même que la personne travaille, mais qui du coup, des fois, ont envie de faire comme si la personne n'était pas blessée ou une personne qui est triste ou une personne qui traverse une période difficile dans sa vie. Et ça, on va avoir tendance à, des fois, le nier en disant, bah, tu fais attraction, tu laisses ta vie sociale et émotionnelle en entrant dans le studio. Ce que je peux entendre aussi, mais je crois quand même qu'on est dans des métiers où il y a beaucoup d'investissements d'humains émotionnels, on est en train de jouer, on joue à faire du fictif avec du réel, on joue avec des émotions. Bien sûr, il y a des techniques et on nous apprend ça en tant que comédien, artiste, à gérer ça, à être, se dire « Ok, aujourd'hui, je vais pas bien, mais je peux jouer mon rôle au plateau. » Mais tout de même, on n'en parle pas beaucoup. On considère que les gens doivent gérer ça tout seul. Et je trouve que, du coup, ça recrée un peu ce système très libéral, au final, où c'est l'individu qui doit gérer l'individu. On doit se gérer seul. T'es autonome, t'es adulte, t'es grand, tu gères ta vie à côté, et là, t'es au travail. Moi, je suis pas complètement d'accord avec ça. Et je pense qu'on devrait s'entraider, et que d'autant plus qu'on est dans un métier où il y a cet engagement émotionnel de nos singularités fortes, on peut pas trop se cacher. Bon, on peut se cacher derrière des techniques, encore une fois, il y a des manières de jouer qui nous permettent de pas être en fragilité au plateau. Mais tout de même, je pense qu'on pourrait davantage, et notamment avec la hiérarchie, je dirais, parce qu'il faut parler des hiérarchies dans le milieu artistique, pouvoir parler de ça.
C'était le 4e épisode de Par Intermittence, un podcast de Tali Santé, le service de prévention et santé au travail, qui s'occupe notamment des intermittentes et intermittents du spectacle. Merci à Kostia pour son témoignage et à la lettre du musicien qui nous accueille dans son studio. Retrouvons-nous prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, rendez-vous sur talisante.org et sur les réseaux sociaux pour vous informer sur la prévention et la santé au travail.